et cet type de toi et de moi, de vous et de moi, en contemplant la personne du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous sommes là autour de lui, et on contemple ce qu'il est dès l'éternité, ce qu'il est devenu homme sur la terre, de ce qu'il a souffert, qu'il a été crucifié. Nous sommes là en esprit, nous voyons, nous contemplons comme Aaron, comme Éléazar, comment il a été égorgé. Nous sommes là pour ainsi dire, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ crucifié pour moi, pour toi. Et tout cela touche notre cœur. Éléazar donc contemple. Mais même Éléazar doit laver ses vêtements. Il a été rendu impur. Pourquoi donc il n'a pas commis un acte de péché? Mais vous savez, c'est même pas nécessaire d'avoir agi ou fait un acte de péché pour être impur, ou d'avoir d'impureté en soi-même, parce que, comme je viens de dire, nous avons le péché qui habite en nous. Et nous devons nous souvenir toujours de cela, que le péché habite en moi, et que la chair est en moi. Pour me faire souvenir que c'est pour cela que le Seigneur est mort. Mais par la grâce de Dieu, il m'accepte. Il accepte la communion avec moi. Et que moi je peux jouir de la communion avec mon Père Céleste et avec mon Sauveur, mon Seigneur. Tout en ayant en moi-même le péché et la chair. Est-ce que ce n'est pas la grâce qui abonde, mes chers amis? Quelle miséricorde donc! Est-ce que nous jouissons réellement de cette communion avec le Seigneur? Voilà la question qui se pose. Il y a donc la victime égorgée et Aaron qui contemple et conduit hors du camp parce que la Genèse rouge est considérée comme étant vile. Vile. Hors du camp, fait péché pour nous. Et là, le jugement est tombé. Et nous lisons ces détails dans le verset 5. Il fallait donc brûler cette génisse rousse. Et c'est déjà aussi unique parce qu'on ne va pas avec les autres sacrifices. Il faut brûler sa peau, sa chair, son sang, sa fiente, tout. Tout est consumé, réduit en cendres. C'est le jugement terrible d'un Dieu saint qui a tombé sur la tête de notre Sauveur, Jésus-Christ. Il a été jugé, consumé par le feu du jugement. Combien il nous a aimés. Est-ce que nous l'aimons aussi? Est-ce que nous voulons l'aimer toujours plus? Est-ce que nous voulons vraiment vivre pour lui chaque jour, en reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous? Vivre comme il demande de nous, avec lui et les uns avec les autres, dans une harmonie, dans l'amour de Christ qui a été, l'amour de Dieu qui a été versé dans nos cœurs. De lui plaire à chaque instant, par reconnaissance pour tout ce qu'il avait fait pour nous. Voilà donc l'application. Le sang aspergé. Pas simplement, oui, dire oui, c'est merveilleux, mais que celui qui est soulié soit aspergé par cette eau. Le sang était aspergé, nous voyons ici, dans le verset 7 et 8. Non, c'est dans le verset 4 à la fin. Éléazar, avec son doigt, il fait aspersion de son sang 7 fois droit devant la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est l'endroit où l'Éternel rencontrait son peuple. Et cette fois, il y a fait aspersion de ce sang. Pour nous, le type nous montre que par le sang de Christ, nous sommes parfaitement rendus agréables. Nous pouvons nous tenir devant Dieu, d'un Dieu saint, sans culpabilité, parce qu'il nous a aimés, et Éphésiens 1:6 qui dit, il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Nous sommes entièrement acceptés, frères, sœurs, acceptez cela pour vous-même aussi. Il n'a pas besoin que j'ajoute quelque chose pour me rendre plus acceptable devant Dieu. Par Christ, nous sommes parfaitement acceptés, rendus agréables, aimés. Oh, quelle merveille! Il m'aime. Il vous aime. Comme vous êtes. Comme moi je suis. Dieu nous a élus et choisis avant la fondation du monde. Afin que nous soyons nés même. Et quand Dieu nous a choisis dans l'éternité derrière, il avait déjà su le potentiel pour tout le mauvais qui est en moi et en toi. Il l'a vu déjà. Et en dépit de cela, il nous a élus, il nous a aimés. Quelle merveille! De se lever le matin et se dire, il m'aime. Il m'aime. Nous avons tous besoin d'être aimés. Nous avons tous besoin d'être acceptés. Nous avons tous besoin d'être appréciés. C'est vrai. Et Dieu nous a créés avec ce besoin immense d'amour. Parce qu'il est amour. Afin que nous l'aimions aussi, lui. Voilà donc ce sang aspergé. Cette fois devant la tente d'assignation, parfaitement accepté, totalement consumé. Mais il y a quelque chose qui sont encore ajoutés dans le verset 6. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de hysope, d'écarlate. Ils sont tous des symboles. Le bois de cèdre, le cèdre au Liban, c'est un des arbres les plus magnifiques sur la surface de la terre. Il peut être orgueilleux, le cèdre, sur tous les autres arbres. Et alors, voilà, c'est donc un type de la magnificence humaine, l'orgueil de l'homme. L'orgueil de l'homme, jeté dans le feu, pas de valeur devant Dieu. Et aussi, l'hysope, c'est le plus petit herbe qui pousse dans les murs à Jérusalem dans le Proche-Orient. Il y a cette humilité volontaire. L'apôtre Paul parle en Colossiens 2 de ceux qui manifestent une humilité volontaire qui n'est pas produite par l'Esprit Saint. Mais c'est humaine. Mais l'homme, dans son totalité, sa grandeur, sa petitesse, jeté au feu. Pas de valeur devant Dieu. Écarlate, encore la gloire extérieure des rois. Toutes les personnes, des rois, des empereurs, des mendiants, un enfant, un homme, une femme, tous les êtres humains, devant un Dieu saint, nous sommes répréhensibles. Et nous sommes dignes d'être jugés par le feu. Alors, nous sommes donc crucifiés avec Christ. Nous avons été crucifiés avec Christ. Il y a 2000 ans qu'il est mort. Et là, Dieu nous a vus aussi morts avec Christ. Il nous dit cela, Romains 6. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Ce que j'étais en Adam, c'est fini. Maintenant, je suis en Christ. Je ne suis pas dans la chair. Quand j'étais en Adam, j'étais dans la chair. La première manière de vivre. Maintenant, je ne suis pas dans la chair. La chair est encore en moi, mais moi je ne suis pas dans la chair. Je suis une nouvelle création en Christ. Christ est devenu notre vie, mes chers amis. Et alors, avec cette vie, nous avons la possibilité d'avoir communion avec Dieu notre Père et avec le Seigneur Jésus. Et notre communion est avec le Père et son Fils. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie. Une fois pour toujours, le sang a purifié. Il n'y a pas des applications continuelles du sang à notre conscience. Moi, j'ai été instruit cela, mais ce n'est pas, la parole. Je pensais, comme jeune croyant, que chaque fois quand je me rendais compte que j'ai péché, il fallait donc l'application du sang de Christ. Non! Une fois pour toujours, le sang a expié nos péchés. Mais la parole de Dieu, dans la puissance de l'Esprit, appliquée à notre conscience, je me soumets à cette parole, donc c'est l'eau de la parole qui me lave. C'est l'eau de la séparation. La parole de Dieu appliquée par l'Esprit. Et nous voyons cela, n'est-ce pas? Il fallait donc prendre, et dans quelques instants, je l'explique encore. Le résultat de ce jugement, c'est que la victime est réduite en cendres. C'est donc tout ce qui reste. Et c'est donc maintenant porté et gardé dans un endroit pur, comme un mémorial, pour se souvenir. Seigneur Jésus-Christ, nous avons cette mémorial quand nous partageons de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Voilà les 10 premiers versets. Maintenant, ce qui reste, l'application de cette eau. Quels sont donc les cas de cette impureté? La communion avec Dieu interrompue par la souillure. On a besoin de restauration. Il y a premièrement le sacrificateur qui doit laver ses vêtements. Réaliser que le péché habite en nous et qu'il faut veiller, il faut se tenir tout près du Seigneur, demeurer en lui, et il demeure en nous, afin que nous ne péchions pas. Et les vêtements, c'est donc ce qui nous couvre de l'extérieur. Dans le sens spirituel, c'est notre conduite, qui est vue par tout le monde. On reconnaît un soldat pour son uniforme. On reconnaît une infirmière pour son uniforme. La police pour son uniforme. On reconnaît un chrétien pour son uniforme. Ses vêtements, son comportement, sa conduite. Quand nos voisins nous regardent, nos collègues, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient que nous sommes habillés de Christ? Que Christ se manifeste dans notre vie? Voilà, donc laver ses vêtements, ça veut dire de se rendre compte de l'importance de notre témoignage de l'extérieur et de nous garder purs pour le Seigneur, pour être un témoin. Mais il y avait aussi d'autres, qu'on a beaucoup de détails ici. Quand quelqu'un a touché un ossement, quelqu'un a touché un homme mort, qui est mort violemment, quelqu'un qui était dans une tente où un homme est mort, des vaisseaux qui sont pas couverts. Tout cela nous parle de la présence du péché partout. Et que nous devons nous veiller, nous garder. Il me semble que ces vaisseaux qui ne sont pas couverts, ça peut être... on peut penser à nos enfants dans nos maisons. Est-ce que ces vaisseaux sont couverts? Est-ce qu'on les garde de toute impureté? Aujourd'hui, je ne sais pas, il y a des télévisions avec de la violence, avec des sexualités, des immoralités, et peut-être que les jeunes regardent et se souillent. Est-ce que cela nous occupe aussi, chers amis, de garder nos enfants de toute souillure, comme des vaisseaux, couverts, ouverts, touchés, un homme mort. Rendait un homme soulier. Mais l'apôtre Paul dit maintenant, en 1 Corinthiens 5, et j'aimerais souligner cela parce qu'il y a un peu de confusion aujourd'hui sur la souillure. 1 Corinthiens 5 et versets 9 et 10, où l'apôtre Paul dit, je vous ai écrit dans la lettre de ne pas avoir de commerce. Remarquons cela, il dit, de ne pas avoir de commerce, être intime avec, s'associer continuellement, être d'accord avec. Avoir de commerce avec des fornicateurs, non pas absolument, avec des fornicateurs de ce monde, ou les avares et les ravisseurs, ou les idolâtres, puisque ainsi il faudrait que vous sortissiez du monde. Vous remarquez ce que l'apôtre Paul dit ici? Aujourd'hui, le contact physique avec un fornicateur dans le monde ne me rende pas soulier. Mais ce qui souille, ce n'est pas de l'extérieur, ce qui sort de l'intérieur, dit l'apôtre, dit le Seigneur Jésus-Christ. C'est une question du cœur. Où est mon cœur? Vis-à-vis du péché, est-ce que moi je juge le péché à moi-même? Est-ce que je suis prêt aussi de juger le péché dans mon prochain? Est-ce que je reste indifférent au péché? Voilà la cause de souillure. C'est une question intérieure de l'attitude de mon cœur vis-à-vis du péché. Et si moi je suis indifférent et je ne juge pas le péché, je serai souillé. Mais ici, dans l'Ancien Testament, ce sont des types. Des types, il y a des types et des antitypes. Et on tombe dans l'erreur quand on va appliquer littéralement des choses qui sont spécifiquement là pour Israël. Il y a donc la nécessité de se purifier. Et nous avons ici donc quelqu'un qui a touché un mort, et soit dans la tente, soit dans les champs, dans ce monde, un ossement, un tombeau, il a la nécessité d'être aspergé par cette eau de séparation. Premièrement, pas seulement de reconnaître la souillure, mais aussi de le juger et de se repentir. Prendre une attitude positive vis-à-vis de ce péché. Voilà la nécessité d'être aspergé par l'eau. Ne pas tolérer le péché dans nos vies ou dans nos environs. Donc, le procédé pour avoir ce moyen. Comment on est arrivé, le peuple d'Israël, à avoir cette eau de séparation? Il fallait donc de l'eau vive, pas l'eau stagnante, l'eau vivante. Et l'eau vivante, c'est un type, un symbole de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui applique la parole de Dieu à nos consciences. Le hyssope, encore pour appliquer dans toute humilité, on reçoit cette application de l'Esprit à nos âmes, à nos consciences. Et alors, il y a ici le troisième jour, dans le verset 19. Peut-être c'est un petit problème pour quelqu'un ici, ce soir. Et je lis. L'homme pur fera aspersion, verset 19, sur l'homme impur, le troisième jour et le septième jour. Et il purifiera le septième jour, et il lavera ses vêtements, et il se lavera dans l'eau, et le soir il sera pur. Le troisième jour et le septième jour. Mais on pose la question. Alors, le jour numéro un et le jour numéro deux, et puis le jour 4, 5 et 6, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 3 le troisième jour et le septième jour. Dans notre expérience, mes chers amis, c'est ainsi. On s'est rendu compte qu'on a attristé l'Esprit Saint. Il nous convainc. Mais on ne réalise pas tout de suite la joie qui retourne. Et la paix. Est-ce que Dieu ne nous a pas pardonné? Oui. Le moment que nous avons confessé, pour ainsi dire, le troisième jour, quand nous nous sommes rendus compte que nous avons péché, et nous avons confessé, ce même moment, Dieu nous a pardonné. Mais Dieu veut que nous soyons, que nous rendions compte du sérieux de ce que nous avons fait. Alors ces trois jours, entre jour troisième et septième, c'est une période d'un approfondissement d'exercice de l'âme. L'âme est labourée, se rend compte que c'était affreux que j'ai fait, que c'est contre un Dieu saint qu'on réalise sa grâce et sa miséricorde. Des exercices profonds. Et jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu a produit un travail profond, le septième jour complète, la joie retourne. Et la paix avec Dieu devient encore une réalisation heureuse. Dieu pardonne le moment que nous confessons. Mais c'est à nous de réaliser le sérieux de ce que nous avons fait. Parce que notre Dieu est un Dieu saint. Mais il y a le pardon. Et il y a aussi la joie, la jouissance d'être pardonné, mes chers amis. Est-ce que tout le monde ici ce soir, vous avez réellement la jouissance du pardon du Seigneur Jésus? Est-ce que vous avez saisi par la foi, avec reconnaissance, ce pardon? Est-ce que vous vous êtes pardonné vous-même? Vous humiliant devant le Seigneur, réalisez notre orgueil que nous ne méritons pas d'être pardonnés. Mais la grâce nous donne ce que nous ne méritons pas. Et la miséricorde, ça fait qu'il ne nous donne pas ce que nous méritons. Voilà la grâce de Dieu. Quelle grâce immense. Cette provision en Jésus-Christ, qui est mort, qui est vivant, qui est là à la droite de Dieu notre Père dans le ciel, notre avocat, notre souverain sacrificateur. Quel bonheur. À lui la gloire.